une semaine d'actualité. Éric Bataillon.
Bonjour, ravi de vous retrouver et merci de votre fidélité. Comme chaque samedi, avec la rédaction, nous allons revenir sur 7 jours d'information, un rendez-vous hebdomadaire que vous pouvez podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Cette semaine, notre invité est un spécialiste du Moyen-Orient qui a longtemps été journaliste, grand reporter pour le quotidien Libération. Bonjour Jean-Pierre Perrin.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions Webeck ces Menaces sur la mémoire de l'humanité, un ouvrage illustré de photos dans lequel vous recensez de nombreux sites en péril ou détruits de l'Afghanistan à la Syrie. Alors pourquoi s'inquiéter particulièrement aujourd'hui de ces nombreuses destructions de sites archéologiques très anciens? Après tout, finalement, chaque guerre apporte son lot de destruction aveugle.
C'est vrai, mais pour la première fois, on détruit des ruines. Jusqu'à présent, les guerres faisaient des ruines, y compris de certains monuments les plus prestigieux. Mais là, on s'attaque à des ruines, ce qui est quand même un pas de plus dans la destruction. Jusqu'à présent, les ruines étaient souvent provoquées soit par des combats qui avaient lieu dans des villes, soit même une volonté de détruire ces villes pour anéantir l'adversaire. À l'exemple, je sais pas, du célèbre bombardement de Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, on s'attaque à quelque chose qui relève de l'âme du pays où ces ruines sont. On a l'impression quand même qu'on veut s'attaquer à l'histoire du pays, à son passé, à sa culture. Donc c'est encore beaucoup plus fort, cette volonté de djihad contre le passé, de djihad contre l'Antiquité, de djihad contre l'histoire, sa propre histoire. Et ça, c'est absolument sans précédent.
Mais alors, que peut-on faire pour empêcher ces destructions aussi importantes et aussi massives et aussi volontaires?
Ah bon, le moyen de puissance occidentale, puisque c'est les seuls finalement à condamner et à essayer de les sauver, sont extrêmement limités. Palmyre, par exemple. Il était possible d'éviter Palmyre. Palmyre est tombé entre les mains de l'État islamique par la volonté du régime de Bachar el-Assad que la ville tombe entre ses mains. Il ne l'a pas défendue. En fait, c'est une cohorte d'une dizaine, une vingtaine, peut-être trentaine de véhicules tout-terrain qui a foncé sur la ville à travers le désert et qui l'a prise. Il n'y a eu quasiment aucune résistance. Et la preuve que le régime l'a laissé conquérir volontairement, c'est que quelques jours auparavant, il avait vidé la prison, la terrible prison de Palmyre, parce que Palmyre, c'est aussi célèbre tristement pour ça, ce qu'on appelle la prison du désert, et de ses détenus. Donc, vous voyez, là, il y a eu une volonté du régime, sans doute, de laisser prendre Palmyre, sachant que l'État islamique avait déjà avoué ce qu'il allait en faire, c'est-à-dire la détruire tout ce qu'il pouvait détruire, justement pour montrer à quel point la Syrie de Bachar el-Assad est le seul rempart contre l'islamisme.
Alors, Jean-Pierre Perrin, vous parlez de l'Afghanistan, vous parlez de la Syrie, bien entendu, la Libye, le Yémen, enfin beaucoup de pays de cette région, mais vous ne parlez pas du Mali, pourquoi ?
Je n'ai jamais mis les pieds au Mali, donc j'ai voulu me consacrer uniquement au pays dans lequel j'ai une certaine connaissance de l'actualité de ce pays, d'une part, mais d'autre part, que j'ai sillonné l'Afghanistan, j'y vais depuis l'âge de 20 ans, la Libye, j'y suis également allé régulièrement, de même que la Syrie, de même que l'Irak et le Yémen, donc dans ces pays, je me sens à l'aise pour en parler parce que je connais la plupart des sites et parce que je connais aussi la politique de ces pays.
Alors justement, nous allons parler de cette région avec l'actualité internationale. Vous le savez, la situation est toujours très critique dans le nord-ouest de la Syrie, où la population paye un lourd tribut aux affrontements entre l'armée de Bachar el-Assad et les groupes rebelles armés. C'était particulièrement le cas le week-end dernier, où des dizaines de civils ont été tués lors des raids aériens menés par l'aviation syrienne, et toute la semaine également. Cela n'a pas empêché la Russie et la Chine de mettre un veto à la proposition de trêve à Alep. C'est ce que nous rapporte Marie Bourreau depuis New York.
Sur le point d'engranger un succès militaire à Alep, Moscou ne s'est pas plié au jeu des concessions. Il n'y aura donc pas de trêve, en tous les cas, pas tant que la Russie ne l'aura décidé. Pas question, à quelques heures ou quelques jours d'une victoire qui leur est maintenant promise, de risquer de voir les rebelles se regrouper pour une contre-offensive, a prétexté Vitali Tchourkine, le représentant russe à l'ONU. Pékin a suivi la ligne de Moscou, ce qui a provoqué la colère des Espagnols, des Néo-Zélandais et des Égyptiens à l'origine de ce texte à vocation purement humanitaire. Ce veto chinois est en tous les cas un désaveu marqué pour le Conseil de sécurité qui a tenté de passer cette résolution à quelques heures seulement d'une réunion à Genève qui pourrait être capitale. John Kerry, l'Américain, et Sergueï Lavrov, le Russe, doivent discuter du départ des rebelles d'Alep-Est. Une demande répétée de Moscou qui en fait un préalable à toute nouvelle trêve et la réunion de la dernière chance pour les 200 000 Syriens toujours sous le feu des bombes.
Et en tout cas, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé jeudi, depuis Hambourg, l'interruption des opérations de combat de l'armée syrienne à Alep pour permettre l'évacuation des civils. Mais Damas maintient ses bombardements, notamment hier, vendredi, sur les derniers quartiers encore tenus par les rebelles. En Irak, où l'armée progresse lentement dans sa volonté de reprendre la ville de Mossoul, la situation des populations yézidis est également délicate. Cette communauté religieuse très ancienne et très fermée a été particulièrement maltraitée par l'organisation État islamique. Elle se retrouve désormais l'otage de rivalités kurdes, comme le relate Oriane Verdier, notre correspondante à Erbil, au Kurdistan irakien.
Sous couvert de mesures de sécurité, les autorités kurdes irakiennes imposent des restrictions disproportionnées, dénonce Human Rights Watch. L'organisation non gouvernementale souligne un accès difficile à l'eau, à la nourriture, ainsi qu'aux services de base. En réalité, depuis sa libération, il y a un an, la région de Sinjar est restée déserte. Ces terres sont déchirées entre deux forces kurdes, le PDK, parti du président kurde irakien Massoud Barzani, et le PKK, le parti des travailleurs kurdes de Turquie. Tous deux ont participé à la libération de Sinjar et en revendiquent la victoire. Durant les mois de lutte contre l'organisation État islamique, le PKK a beaucoup soutenu les yézidis, victimes d'une tentative de génocide. Ces combattants ont donc aujourd'hui une réelle popularité au sein de la communauté yézidi. En parallèle, son frère ennemi, le PDK, a lui affirmé vouloir rendre Sinjar aux yézidis en faisant de la région une nouvelle province du Kurdistan irakien. En réalité, ces rivalités politiques ont pris le dessus et les familles vivent-elles toujours parquées dans des camps tenus par les autorités kurdes irakiennes.
Jean-Pierre Perrin, les minorités semblent avoir toujours tort, même au Kurdistan censé les protéger, les yézidis ne sont pas à l'abri. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Premièrement, les yézidis, vous l'avez dit, sont une des plus vieilles communautés, une des plus vieilles religions du Moyen-Orient. Et ce qu'ils ont subi, c'est un génocide. On a tué des milliers d'hommes, on a réduit en esclavage des milliers de femmes, on a pris également les enfants, dont certains sont devenus des enfants soldats, les petites filles futures esclaves sexuelles dès l'âge de 9 ans. Donc tout ce qu'on leur a fait subir est absolument abominable. Et je pense que la communauté internationale n'a pas été à la hauteur de ce génocide. Moi, c'est un véritable génocide et toute personne, je pense, agissant de conserve ou en faveur de l'État islamique est complice de ce génocide. Et je pense qu'il faut être très très ferme dessus. Alors maintenant, évidemment, ils sont manipulés par tout le monde. Chacun, aujourd'hui, alors que la bataille de Mossoul n'est pas terminée, loin de là, chacun pense d'ailleurs au coup d'après. Nous avons la Turquie qui joue en prévision d'après la chute de Mossoul. Nous avons les Kurdes, évidemment, qui se positionnent, qui veulent être à Mossoul, alors qu'ils n'y reviendront plus, ils ne réinstalleront probablement plus de population. Nous avons les milices chiites qui remontent par l'ouest avec le soutien de Bagdad. Nous avons l'armée de Bagdad qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire une armée déficiente, donc qui doit uniquement son actuelle puissance, et le mot puissance est un peu exagéré, au soutien américain qui est considérable. Et nous avons encore d'autres acteurs qui jouent. Tout le monde pense à l'après-Mossoul, alors que la bataille n'est pas terminée. Et on peut craindre que le chaos actuel soit dépassé par un chaos encore plus grand une fois que la chute de la ville sera réelle.
Est-ce que c'est le cas, un cas similaire qu'Alep, par exemple, en Syrie ?
Non, c'est très différent. À Alep, d'abord, il y a beaucoup moins de joueurs qui jouent. Hein. Finalement, il y a les rebelles, et puis il y a la Russie, l'Iran et Bachar. Voilà, hein, Bachar, je pense que l'armée de Bachar n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été. Ça n'a jamais été une armée formidable, c'est une armée de guerre civile, l'armée de Bachar. Ça n'a jamais été capable de gagner une guerre autrement. Elle est capable de gagner la guerre contre ses propres populations, c'est tout. Donc là, l'armée de Bachar face aux rebelles, voilà, c'est l'enjeu est relativement simple. Donc évidemment, les Kurdes ne sont pas très loin, mais ce n'est pas leur intérêt. L'intérêt des Kurdes, c'est d'avoir une continuité territoriale sur toutes les régions kurdes le long de la frontière, mais la bataille d'Alep n'est pas pour eux. En revanche, oui, le régime veut Alep parce que c'est évidemment l'enjeu le plus important aujourd'hui.
7 jours dans le monde.
L'Autriche a enfin élu un nouveau président et à l'issue du second tour, c'est finalement le candidat écologiste Alexander Van der Bellen qui l'emporte avec une confortable avance sur le candidat de l'extrême droite, faisant ainsi mentir les prédictions qui donnaient Norbert Hofer gagnant. Le nouveau président étant un Européen convaincu, la menace d'un éventuel départ de l'Autriche de l'Union européenne s'éloigne. En Italie, en revanche, c'est l'incertitude politique qui revient. Les Italiens ont massivement voté non au référendum de dimanche dernier, proposant de limiter le pouvoir des régions et du Sénat. Conséquence, le Premier ministre Matteo Renzi a démissionné après avoir concédé amèrement sa défaite.
Il non a vinto.
Le non a gagné de manière extraordinairement nette. Je présente toutes mes félicitations aux leaders du camp du non et mes souhaits de bon travail dans l'intérêt de l'Italie et des Italiens. J'assume toutes les responsabilités de cet échec et je dis à mes amis du oui que ce n'est pas eux qui ont perdu, mais moi. Vous aviez de merveilleuses idées, vous vouliez rapprocher les citoyens de la chose publique, combattre le populisme, simplifier le système et rendre plus proches citoyens et entreprises. J'ai perdu, je le dis haut et fort, même si j'ai la gorge nouée, mon gouvernement s'arrête là.
Et en Allemagne, la chancelière Angela Merkel pourra briguer un quatrième mandat l'an prochain. Elle a été réélue présidente de son parti, la CDU, dont le congrès se tenait cette semaine. En Chine, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch publie un rapport d'une centaine de pages sur les dérives de la lutte anticorruption menée par le président Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir. Une opération main propre qui a conduit à des centaines de milliers de condamnations, sauf que le système mis en place pour obtenir des aveux repose sur la torture et les personnes soupçonnées de corruption sont enlevées et détenues secrètement. La correspondante de RFI à Pékin, Angélique Forget, a pu s'entretenir avec l'épouse d'une victime de ce système.
Ils ont brûlé sa peau à la cigarette, l'ont forcé à se tenir debout des heures durant sur des cubes de glace ou des pics en bois. Pendant 38 jours, les tortionnaires du mari de Wu Qian n'ont eu aucune pitié. Accusé d'avoir touché des pots de vin lors d'une vente de terrain, ce cadre d'une entreprise d'État a été enlevé et détenu en secret jusqu'à sa mort.
Pendant toute sa détention, je n'ai rien su de ce qu'il se passait. Je ne sais pas de quoi il est mort, je n'ai jamais compris. Mais ça s'est passé pendant sa détention illégale, ce qu'on appelle ici le Shuangwei.
Un système de détention mis en place en dehors de tout cadre légal. Après le décès de son mari, Wu Qian a porté plainte contre les tortionnaires. Ils ont été condamnés, mais les commanditaires jamais inquiétés. Elle dénonce un procès injuste.
Pendant le procès, toutes nos demandes d'accès au dossier ont été rejetées. Je n'ai pas eu le droit de faire appel à autant d'avocats que je voulais. Et mon avocat a été expulsé du tribunal.
Comme le mari de Wu Qian, au moins 10 autres personnes sont mortes au cours de leur détention. Le Shuangwei est devenu l'instrument idéal de Xi Jinping pour éliminer ses rivaux politiques.
Aux États-Unis, les tweets et les premières annonces du nouveau président élu, Donald Trump, n'en finissent pas de faire des vagues. Cette fois, c'est au plan intérieur que les choses se compliquent. La nouvelle administration évoque en effet la réactivation d'un projet de pipeline qui traverserait des territoires de la nation Sioux au Dakota, des terres qui seraient sacrées. Les manifestations se multiplient ces derniers jours. Anne-Marie Capomaccio à Washington.
Après les chants de victoire, le réveil est difficile. Les Sioux de Standing Rock ne savent pas si le tracé contesté du pipeline évitera finalement les terres sacrées et les réserves d'eau potable. Certes, l'administration fédérale a demandé à la compagnie Energy Transfer d'étudier une nouvelle route pour l'oléoduc dans le Dakota du Nord, mais l'équipe Trump va s'installer à la Maison-Blanche et les conseillers ont apporté leur soutien au tracé contesté. David Archambault, le chef de la tribu, ne baisse pas les bras. Il y a plus de 7000 personnes ici, elles sont installées, elles vont rester, elles n'ont pas l'intention de partir, dit-il. Il ne se passera certainement plus rien avant le 20 janvier, mais les signaux sont inquiétants pour les opposants à l'oléoduc. Donald Trump, d'après la presse, détient des actions de la société Energy Transfer qui doit construire le pipeline, un projet de 3,7 milliards de dollars. Sur son site internet, la compagnie dénonce l'arrêt des travaux, une décision politique, dit le communiqué, pas étonnante, venant de l'administration Obama.
Jean-Pierre Perrin, cette affaire contre les Sioux du Dakota du Nord, c'est aussi une menace contre la mémoire de l'humanité?
Oh oui, ça fait partie évidemment de, de la mémoire Sioux est aussi une des mémoires de l'humanité, évidemment. Pour les chercheurs, les anthropologues qui ont travaillé sur la question des Indiens d'Amérique du Nord, témoignent d'une culture extraordinairement riche. Et évidemment, l'histoire était un rouleau compresseur. Et là, on voit que le péril écologique du pipeline rejoint également la question culturelle de ces Indiens. Donc les deux sont liés, vous voyez.
Alors parlons précisément de votre livre « Menace sur la mémoire de l'humanité » publié aux éditions Webeck. Cela commence par les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Vous titrez d'ailleurs « Le crime de Bamiyan ». Est-ce que c'est ça l'acte fondateur des récentes menaces contre le patrimoine mondial de l'humanité ?
Alors à l'époque, c'est-à-dire en mars 2001, on croyait que c'était finalement un acte isolé, que les talibans n'étaient qu'un mouvement, une résurgence d'un fondamentalisme du sous-continent indien qui finalement était un accident de l'histoire, qui était provoqué par la situation catastrophique de l'Afghanistan, née de l'invasion soviétique de 1979 et ensuite d'une longue guerre civile, et que finalement les talibans étaient une réaction contre l'écroulement systématique du pays, nourri d'un fondamentalisme religieux extrêmement conservateur, ce qu'on a appelé l'école des Bandit, et donc que c'était un peu un accident de l'histoire. Or, ce que nous prenions pour une arrière-garde est en fait une avant-garde d'un ordre islamique nouveau, bien pire encore que les talibans, et qui finalement a déferlé sur le Moyen-Orient. Et je pense qu'on ne peut pas le considérer simplement cette fois-ci comme un simple accident de l'histoire, mais comme une lame de fond habilitée à perdurer, même si l'État islamique, évidemment, sera tôt ou tard défait.
Vous êtes allé à Bamiyan, vous avez même rencontré au moins l'un de ceux qui ont participé à la destruction des Bouddhas, contraints et forcés bien entendu.
Oui, à son corps défendant, c'est-à-dire les talibans, d'après ce qu'il m'a raconté, lui ont mis en main le marché, soit tu travailles pour nous, soit tu places les explosifs, parce qu'il n'était pas question évidemment pour ces guerriers d'aller se balader le long d'une corde, le long de la falaise et de placer dans les anfractuosités des explosifs, le TNT. Donc ils ont délégué ça à une sorte d'esclave finalement, et ils lui ont dit, soit tu places les explosifs ou on te dira de les placer, soit on t'exécute, on brûle ta maison, et éventuellement, ils auraient même été jusqu'à tuer sa famille. Donc, le malheureux paysan a été contraint et forcé de se plier au désir des talibans, et donc de détruire les Bouddhas. C'est pas lui qui a fait sauter les Bouddhas lui-même, mais c'est lui qui a placé les explosifs.
Donc, acte délibéré, en fait. Hein.
Acte délibéré qui a été l'objet d'une longue délibération au sein des talibans. Il y a eu une sorte de shura, c'est-à-dire un conseil consultatif dans lequel on a délibéré pour savoir ce qu'il fallait faire des Bouddhas. Et à la suite de longues négociations, on a les minutes de ce procès, donc le procès qui a été fait au grand Bouddha. Et puis, on peut donc suivre l'argumentation développée par les religieux, pourquoi ils ont détruit les Bouddhas.
Est-ce pour cela que vous écrivez « Les Mongols sont de retour » par un certain retournement de l'histoire, puisque les Mongols ont envahi toute cette région au XIIIe siècle?
Oui, alors bien sûr, les Mongols ont fait tabula rasa. Ils ont absolument tout détruit. Des pans entiers de culture, de civilisation ont été détruits. Des villes ne sont jamais revenues. Alors, curieusement, les Mongols ont détruit toute la région, tout l'Afghanistan, mais ils avaient épargné les Bouddhas.
Alors qu'aujourd'hui, les nouveaux Mongols, ce sont les talibans et aussi peut-être l'État islamique, c'est ce que vous dites ?
Oui, c'est ça, oui. Alors on peut même se demander dans quelle mesure, finalement, la barbarie mongole, parce que tous ces pays ont une mémoire extraordinairement longue, les Afghans ont une mémoire extraordinairement longue, donc la barbarie mongole, elle n'est pas la seule, à l'époque, tous les régimes, même Alexandre le Grand, lorsqu'il envahit la Perse et l'actuel Afghanistan, n'est pas un tendre, évidemment, on rase des villes, on massacre des populations, la barbarie mongole était absolument phénoménal. Par exemple, Alep, puisqu'on a évoqué Alep. Alep, ils attaquaient la ville en poussant devant eux des populations serviles, esclaves, justement, et les défenseurs de la ville voyaient leur propre famille qui avançait devant eux. Et donc, ils n'osaient pas tirer. Et puis, les célèbres pyramides de tête, hein, jusqu'à 20 000 pour Alep, je crois. Donc, c'était une barbarie extraordinaire.
Jean-Pierre Perrin, nous marquons une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec la rédaction.
Éric Bataillon.
Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Perrin, spécialiste du Moyen-Orient, journaliste, ancien grand reporter au quotidien Libération, pour son livre « Menace sur la mémoire de l'humanité » publié aux éditions Webeck.
Une semaine d'actualité.
Et pour commencer cette seconde partie, parlons de l'actualité en France cette semaine avec l'annonce de la participation du Premier ministre Manuel Valls à la primaire socialiste en vue de l'élection présidentielle de l'année prochaine. C'était lundi soir dans son fief d'Evry au sud de Paris. Valérie Gasse y était.
Je suis candidat à la présidence de la République.
Manuel Valls a prononcé ces mots dès le début de son allocution. La scène avait été bien préparée. Le pupitre était placé au centre d'une foule réunie en cercle, des habitants d'Evry, des amis politiques, l'épouse du Premier ministre. Dans la salle du conseil municipal où il s'était marié, Manuel Valls a lancé sa campagne pour la primaire et il a annoncé
« Je ne peux plus être Premier ministre tout en étant candidat. » Je quitterai mes fonctions.
Manuel Valls entre en campagne immédiatement avec un objectif, essayer de rassembler son camp grâce à la primaire.
Ma candidature est celle de la conciliation. Elle est celle de la réconciliation.
Manuel Valls est conscient de son image autoritaire clivante. Il a reconnu avoir provoqué des débats, des incompréhensions, mais a aussi insisté sur sa loyauté, son sens de l'intérêt collectif et sa volonté de redonner de l'espoir à la gauche.
On nous dit que la gauche n'a aucune chance. Mais rien n'est écrit.
Dans les mots, dans le ton posé, loin des accents martiaux de certains de ses discours, Manuel Valls a essayé de montrer qu'il était prêt à faire le premier pas vers la réconciliation de la gauche. Lui qui parlait avant de deux gauches irréconciliables. Dès cette semaine, il va commencer à sillonner la France pour essayer de convaincre qu'il est l'homme de la situation.
Et dès le lendemain de l'annonce de Manuel Valls, le président François Hollande nommait un nouveau Premier ministre. Et une fois encore, c'est un ancien ministre de l'Intérieur qui endosse la fonction, en l'occurrence Bernard Cazeneuve. Écoutez-le.
Il reste quelques mois et vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir qu'en politique, chaque jour est utile. Protéger, progresser, préparer l'avenir, voilà ce que je vais essayer de faire modestement dans la responsabilité que le président de la République m'a fait l'honneur de me confier, dans la continuité de ce que vous avez fait vous-même et avec monsieur le Premier ministre, cher Manuel Valls, une seule boussole. Cette boussole porte un nom, le sens de l'État.
Peut-être l'épilogue dans l'affaire Cahuzac. L'ancien ministre du Budget a été condamné jeudi à 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité. Son ex-épouse, Patricia, a été condamnée à 2 ans de prison ferme. Condamnation également pour la banque Crais de Genève. Jérôme Cahuzac a fait appel. Jean-Pierre Perrin, nous parlions juste avant le journal d'information des atteintes au patrimoine en Afghanistan et votre ouvrage nous éclaire sur bien d'autres situations dramatiques dans cette région moyen-orientale particulièrement touchée. Une situation qui a poussé François Hollande, en visite le week-end dernier aux Émirats Arabes Unis, à lancer une initiative visant à créer un fonds mondial pour la sauvegarde du patrimoine menacé, capable de recueillir plus de 100 millions de dollars. Écoutez le chef de l'État.
Il s'agit de sauver ce que nous ont laissé les générations passées, comme si nous avions à faire cette continuité, d'assurer ce passage, de faire en sorte que l'histoire et l'avenir puissent se retrouver.
François Hollande à Abu Dhabi, lors d'une conférence internationale réunissant des représentants d'une quarantaine d'États et d'institutions privées. Jean-Pierre Perrin, que penser de cette initiative du chef de l'État?
Elle est bien tardive, elle est utile, mais elle est bien tardive. Le mal a été fait. Reprenons Alep, par exemple. Les Russes s'acharnent à détruire Alep. Parce que ils pratiquent la même politique qu'ils ont pratiquée en Tchétchénie. Pas de différence entre les combattants et la population civile. Pas de différence entre une position d'artillerie rebelle et un hôpital. Pas de différence entre un bâtiment militaire et la plus vieille mosquée de la ville. C'est pareil, table rase, comme ils l'ont fait en Tchétchénie. Volonté d'anéantir total l'adversaire. Et là, que fait l'UNESCO, par exemple, vis-à-vis des Russes? Est-ce qu'elle a vraiment condamné Moscou? Est-ce qu'elle a vraiment dit à Poutine « ce que vous faites est un crime contre l'humanité » Non, pas du tout. Elle, évidemment, elle ne peut pas le faire. Elle est. Mais quand même, faut prendre en compte de la non-effectivité de l'action de l'UNESCO. Et même si elle va prétendre le contraire par des arguties ici et là, il y a quand même un constat de démission. Alors, Hollande, évidemment, fait ce qu'il peut. Simplement, on n'en serait peut-être pas tout à fait là si un certain Barack Obama, lorsqu'il avait dit « il y a des lignes rouges à ne pas franchir », avait appliqué sa promesse et avait donné une gifle à Bachar el-Assad. On n'en serait sans doute pas là.
Alors, au total, Jean-Pierre Perrin, entre 800 et 1200 hauts lieux du patrimoine culturel mondial auraient ainsi été anéantis par les destructions, les pillages et les bombardements au Moyen-Orient. Pour sauver ces sites en péril, la France a proposé donc un plan Marshall, c'est la déclaration d'Abu Dhabi, on en a parlé abondamment. Mais vous, alors, vous proposez autre chose, c'est votre dernier chapitre, vous proposez une riposte qui s'appelle Iconem. Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors, c'est pas la panacée, hein, ça ne va pas remplacer les sites. Mais c'est simplement garder l'image blottie derrière nos paupières de ce que furent ces sites, comment ils vivaient dans leur magnificence, voilà, simplement. Mais encore une fois, les sites, ce ne sont pas que des ruines. Les ruines ne sont pas que des ruines. Hein. Michelet disait que l'artiste avait spiritualisé la pierre et qu'il ne fallait certainement pas voir dans des tas de cailloux dans ces ruines, mais simplement quelque chose où la vie et la sève continuent de circuler, où l'histoire y est là, la philosophie est là. Enfin, par exemple, si on prend la Syrie a donné naissance à des écoles philosophiques gréco-romaines, vous voyez, et c'est donc tout dépend entier de notre culture propre qui s'y trouve. Donc, surtout ne pas cantonner les ruines à des ruines, elles sont bien autre chose.
Mais Iconem, par exemple, pour revenir précisément, c'est une construction holographique, c'est une construction informatique qui permet de redonner vie à ces patrimoines.
Avec l'emploi de drones, par exemple, très très utile, mais aussi les gens d'Iconem connaissent très bien à la fois le terrain et l'archéologie. Donc ils sont à la fois archéologues, ingénieurs, informaticiens, c'est la conjonction de tous ces éléments qui permet de faire revivre ces sites comme s'ils n'avaient pas disparu. Simplement, c'est le projet magnifique, mais ne remplacera pas quand même le site lui-même.
On ne reconstruit pas.
On ne reconstruit pas, non.
Sauf sur des écrans.
Manquera l'esprit des lieux.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons maintenant en Afrique, où la Gambie a tourné une page de son histoire. Si le nouveau président élu, Adama Barrow, ne prendra ses fonctions qu'en janvier, un signe du déclin des années Yahya Jammeh, elle a remis en liberté provisoire Dousseinou Darboué, l'un de ses opposants les plus virulents, arrêté lors d'une manifestation en avril dernier et condamné en première instance dès juillet à 3 ans de prison. Son procès en appel se tenait lundi. Guillaume Thibault y assistait, reportage.
Dès l'annonce de la libération d'Ousseinou Darbo et des 18 militants jugés en même temps que lui, la foule massée devant le tribunal a célébré cette victoire. Niang Dial, neveu du leader politique, salue cette décision.
C'est la première illustration de la volonté du peuple. Les Gambiens ont choisi et nous n'allons pas revenir sur une décision. Nous voulons une meilleure Gambie.
Juste avant de quitter le palais de justice, Ousseinou Darbo rappelle que le régime de Yahya Jammeh l'a mis en prison sans raison. Et qu'il n'attend rien, donc, de celui qui quittera son poste en janvier.
Peu importe ce que fait le président, que l'on appelle ça pardon ou libération, je n'ai rien fait d'illégal. Je suis à l'aise avec ça parce que je le sais, les avocats le savent, pas seulement dans ce pays, mais partout dans le monde, que ce que j'ai fait n'était pas illégal.
À 22 ans, Abdoulaye Sandang est fier de voir que les avocats ont à nouveau un rôle à jouer en Gambie.
Les avocats ont fait leur travail aujourd'hui. Avant, le dictateur leur disait ce qu'ils devaient faire. Désormais, on est indépendant. C'est la nouvelle Gambie, c'est une renaissance.
La foule court autour du véhicule qui emmène Ousseinou Darbo. Fofana accompagne ce départ vers la liberté.
Il n'y avait pas de justice avant, et cette première décision, c'est parce qu'on a un nouveau président. On a la justice désormais, le nouveau président va nous donner la paix et la démocratie.
Élection présidentielle au Ghana, le premier tour a eu lieu mercredi. La campagne électorale a montré que le match était très serré entre le président sortant, John Mahama, et son rival de toujours, Nana Akufo-Addo. Mais il semble qu'une soif de changement anime parfois vivement les électeurs. Reportage de Michel Arsenault à Accra.
Relaxe-toi. Cela aurait pu être le mot d'ordre de cette journée électorale au Ghana. Même lorsque les esprits s'échauffaient, la sécurité intervenait pour calmer le jeu. Dans les bureaux de vote visités par RFI à Accra, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Bon nombre d'électeurs s'en réjouissent.
Tout va calmement. Il n'y a pas de problème. On gêne. Il n'y a pas de querelle, pas d'affrontement.
Je suis citoyen. Donc je dois contribuer ma part pour le développement du pays. C'est pourquoi je suis venu ici pour venir voter.
Oui, ça va, ça va, ça va. Ici, ça va. Je dois rester pour voter. Voilà. On voit le changement. Il n'y a rien qui bouge. Il y a trop de corruption. Ils mangent trop de l'argent ici. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien de tout. Donc peut-être si on change, on peut avoir le travail.
Le dépouillement du scrutin a commencé dès la fermeture des bureaux de vote à 17h. Lors du précédent scrutin présidentiel, la commission électorale avait annoncé des résultats officiels et complets en moins de 48 heures.
Ce qui ne sera pas le cas cette fois, situation à suivre dans nos journaux Afrique. Et lorsque le changement ne passe pas par les urnes, ce qui reste souvent le cas en Afrique, c'est la communauté internationale qui prend le relais. Mardi, s'est ouvert à la CPI à La Haye le procès d'un chef de guerre qui a sévi dans le nord de l'Ouganda pendant près de 30 ans. Dominique Ongwen est l'objet de 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Un procès très attendu dans le nord de l'Ouganda, comme a pu le constater sur place la correspondante de RFI, Charlotte Cosset.
Alice a 50 ans, pagne sur la tête et rides creusées. Elle a été enlevée par la LRA quand elle était jeune, ainsi que deux de ses enfants. Le procès de Dominique Ongwen est très important pour elle.
Je veux que ce procès ait lieu parce que je ne me sentirais pas bien que quelqu'un comme Dominique Ongwen soit laissé libre. Nous avons perdu nos enfants. Moi-même, j'ai deux enfants encore dans le bush. Je ne sais même pas s'ils sont vivants ou morts. Qu'il soit jugé, et s'il est reconnu coupable, qu'il aille en prison. Je ne veux pas qu'il soit tué, mais comment un homme qui a causé tant de peine pourrait se promener libre ?
Pamela Ongwesh est la directrice exécutive d'une ONG, Gwedje, promouvant le droit des femmes dans le nord du pays. Elle est proche des victimes et de certains témoins du procès.
Les victimes sont vraiment intéressées d'entendre Ongwen parler. Et quel est son point de vue ? Est-il le même homme qu'il était dans le bush ? Dans quel état d'esprit est-il ? Est-il désolé pour ce qu'il a fait ? Je pense que les gens veulent l'entendre parler.
En plus d'entendre la voix de Dominique Ongwen, les victimes ougandaises espèrent faire entendre les souffrances qu'elles ont vécues.
Sept jours en Afrique.
Jean-Pierre Perrin, on continue de regarder cette actualité en Afrique avec ce qui s'est passé en Algérie le week-end dernier, ce qu'on a appelé la grande rafle. Des centaines de migrants de plusieurs nationalités, essentiellement subsahariennes, ont été arrêtés pour être collectivement expulsés. Certaines de ces expulsions ont déjà commencé, notamment vers le Niger. Le syndicat autonome SNAPAP dénonce la plus grande chasse à l'homme noir depuis l'indépendance. Leïla Berato à Alger.
Allô Moussa. C'est comment Moussa?
Ce jeune Camerounais a tenté de joindre ses collègues de chantier toute la matinée.
La police est entrée quand? Ils ont pris qui?
En rentrant du travail jeudi soir, certains ont été arrêtés.
La police.
C'est un ami qui m'a appelé, mais ils ont la raflé de son côté, la police. Donc si je suis à la maison, que je dois quitter la maison rapidement. Ils sont en train de faire un rafle général. Ils ont beaucoup de bus. Puis je suis allé me cacher derrière la mosquée comme c'est dans la nuit. Et on est resté là longtemps. On ne peut plus aller au travail, on a peur de sortir parce qu'on va nous arrêter.
Inquiète, cette Ivoirienne a passé la journée à surveiller son téléphone pour avoir des nouvelles de son mari.
Bon, mon mari, il a son patron qui vient le chercher ce matin, avec une voiture, c'est ce qui fait qu'il est rentré. Sinon, parce qu'il ne pouvait pas sortir.
Les autorités algériennes n'ont toujours fait aucune annonce. Les ambassades ouest-africaines affirment attendre des informations du ministère des Affaires étrangères. Les chefs des communautés migrantes ont, eux, décidé de se réunir en urgence.
L'affaire fait grand bruit et est digne des plus grands films hollywoodiens. Pendant 10 ans, une ambassade américaine a fonctionné à Accra, au Ghana. Elle délivrait des visas aux Ghanéens, mais aussi aux Ivoiriens, Béninois, Togolais ou Burkinabés. Problème, cette ambassade était fausse. Le récit d'Esdras Ndikoumana.
C'est probablement l'une des arnaques les plus élaborées dans cette région d'Afrique qui en a vu bien d'autres. Cette fausse ambassade américaine a eu pignon sur rue pendant une dizaine d'années dans la capitale ghanéenne avec toutes les apparences d'une vraie représentation des États-Unis d'Amérique. La bannière étoilée flottant bien en vue dans les airs et à l'intérieur, une photo officielle du président Barack Obama accrochée sur un mur. Dans cette fausse ambassade, des membres du crime organisé turc-guinéen déguisés en vrais fonctionnaires américains ont délivré des visas et autres pièces d'identité de ce pays trois fois par semaine durant toutes ces années pour un coût plutôt exorbitant, un peu plus de 5 600 € la pièce pour des clients d'origine ghanéenne, mais aussi en provenance de la Côte d'Ivoire et du Togo, avec un système d'accueil très élaboré. Comment ce gang se procurait de vrais visas américains? Combien de personnes ont pu pénétrer illégalement aux États-Unis à l'aide de ces documents? Le département d'État américain qui vient de révéler cette escroquerie ne donne aucun détail sur des questions aussi sensibles, même s'il reconnaît qu'ils ont bénéficié de complicité outre-Atlantique. Son communiqué précise que les perquisitions qui ont été menées lors d'une opération conjointe américano-ghanéenne ont permis des arrestations et la saisie de quelques 150 passeports de 10 pays. Mais ce n'est pas tout, cette opération a également permis de découvrir et de démanteler une autre fausse ambassade, celle des Pays-Bas, dans cette capitale ghanéenne.
Une semaine d'actualité.
Jean-Pierre Perrin, revenons à votre ouvrage passionnant, Menace sur la mémoire de l'humanité. Alors après l'Afghanistan, dont nous parlions dans la première partie de l'émission, parlons maintenant de l'Irak. Pour vous, clairement, il y a un djihad contre le passé dans ce pays?
Ah oui, tout à fait, bien sûr. Regardez, tout ce qui a été détruit, ce sont tous les plus beaux sites mésopotamiens, assyriens, également le tombeau de Jonas, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de plus symbolique que le tombeau de Jonas, prophète reconnu à la fois par les juifs, les chrétiens et les musulmans? Ce tombeau de Jonas, que je connais un petit peu, même si on m'avait déjà pas vraiment laissé entrer, bon, il était réduit à un tas de cailloux, ce tombeau de Jonas. Or, c'est quand même la mémoire des trois religions réunies en une seule figure, en la figure du prophète Jonas. Bon, il n'en reste plus rien. Vous avez des choses toutes simples, des tombeaux soufis que n'avaient pas détruit les Mongols qui l'ont été. Nous avons une église donnée par Napoléon III aux chrétiens de la ville, également anéantie. Nous avons donc tout ce qui n'est pas d'une part islamique a été détruit, et d'autre part, tout ce qui précède l'islam qu'il a été également, et là, absolument, alors, quand ce n'est pas détruit, c'est pour être monnayé, c'est pour être revendu, c'est pour être les pièces d'orfèvrerie, l'art en général, qui peut être transporté et vendu, alors ça, c'est pas détruit. Donc, finalement, ça n'empêche pas non plus le business, vous voyez, il y a les deux aspects, destruction et business, l'État islamique est aussi une formidable machine à faire du fric.
Alors, les musées, par exemple, sont systématiquement pillés. Celui de Mossoul, il y avait eu aussi dans le passé, d'ailleurs, je crois, celui de Bagdad qui avait été pillé.
Alors au moment de l'invasion américaine de l'Irak, alors il n'avait pas été pour les mêmes raisons. Là, c'était vraiment la foule qui s'est ruée sur le musée de Bagdad pour le saccager, le détruire, le voler. Là, on a une sorte de revanche populaire sur l'histoire, alors qu'à Mossoul, on a un acte délibéré d'un groupe politique qui a une idéologie précise, qui n'est pas le cas à Bagdad, et donc on est dans un contexte différent. D'ailleurs, le musée de Mossoul l'a été deux fois, elle a été lors de l'invasion américaine et ensuite par le groupe État islamique.
Alors, en danger également, alors il y a Nimroud par exemple qui a été détruite, à coups de pioche et de bulldozer.
Tout a été utilisé pour détruire le patrimoine historique de l'Irak. Ça va de la pioche, de l'explosif, de la massue, de l'acide, le bulldozer bien évidemment, l'arme automatique. Vraiment, c'est une destruction absolument systématique, consciente, réfléchie et destinée à frapper l'opinion. La différence avec les Bouddhas de Bamiyan, c'est qu'il n'y avait qu'une seule télévision pour filmer la scène à Bamiyan. Vous voyez, Al Jazeera pour ne pas la nommer. Mais là, on rend public les destructions, on en fait une publicité, on s'en sert comme outil de propagande et pour recruter de nouveaux volontaires. Donc vous voyez, on a fait des sauts dans l'horreur.
Alors, parmi les cités qui sont en difficulté et qui sont menacées en Irak, il y a Samara, qui veut dire d'ailleurs « heureux celui qui la voit ». Donc on imagine la splendeur certainement de cette ville. Et curieusement, c'est près de cette ville qu'est né Abou Bakr al-Baghdadi, le chef suprême de l'État islamique. Est-ce que c'est pour cette raison que cette ville est menacée ?
Oui, notamment. Mais bon, Samarra est vraiment une ville sainte chiite, même si la population alentour est plutôt sunnite. Vous voyez, regardez la spirale du minaret, elle évoque le derviche tourneur. Vous voyez, elle évoque donc le soufi. Elle évoque donc un personnage que les islamistes de l'État islamique n'aiment pas. Donc, il fallait absolument détruire Samarra. Samarra qui est le lieu aussi de ce qu'on appelle la grande occultation, la disparition du 12e imam du chiisme. Pas tout à fait dans ce mausolée-là, mais dans un mausolée voisin. Donc Samarra, oui, devait être détruite. Elle a fait l'objet de plusieurs attentats. Alors les chiites aussi ont répliqué par des attentats contre des mosquées sunnites. On voit dans cette guerre entre les deux religions se fait à coup d'extermination du patrimoine.
Alors, après l'Irak, la Syrie, évidemment. Alors là, c'est peut-être un peu différent, même si l'État islamique a pris Palmyre. En fait, à Palmyre, ils ne se sont pas attaqués d'abord et avant tout aux sites archéologiques. Ils ont commencé par la prison. Pourquoi ?
Oui, c'est un mystère. Simplement, on peut avoir quelques hypothèses. Je pense qu'un bon nombre d'islamistes ont été emprisonnés dans cette prison. C'est la prison du désert. C'est la prison considérée comme une des plus terribles prisons au monde par Amnesty International. La torture systématique, les exécutions systématiques. Donc, je pense qu'un certain nombre de détenus venaient de cette prison. D'autre part, cette prison est emblématique de la répression de Bachar el-Assad. Donc, on peut imaginer aussi qu'ils ont voulu montrer, vous voyez, on s'attaque aussi aux dictateurs.
Alors, dans votre livre « Menaces sur la mémoire de l'humanité », vous, balayez les pays où vous êtes allé, et notamment, vous connaissez la Libye et le Yémen. Alors, la Libye, c'est un peu particulier parce qu'il y a énormément de sites gréco-romains, puisque la Libye, par exemple, a fourni le seul empereur romain d'origine africaine. Donc, il y a un passé gréco-romain très fort. Et là, finalement, il n'y a pas tant de destruction que cela. Pourquoi ?
Non, parce que l'État islamique n'a pas été en position d'attaquer ces villes. Il les a menacées, cela dit. Mais elles sont toujours restées entre des troupes, aux mains de troupes qui finalement ne les ont pas protégées, parce qu'ils s'en moquent un peu, mais ne se sont pas engagés à les détruire.
Mais il y a des sites qui sont menacés quand même aujourd'hui.
Si un des sites comme Sirène, par exemple, tombe entre les mains du groupe libyen de l'État islamique, oui, je pense que la ville va être saccagée. D'ailleurs, ils se sont emparés à un moment donné, pendant quelques jours, d'un des sites d'une ville gréco-romaine. Et là, ils ont commencé les destructions, j'ai oublié le nom. Donc oui, il y a une menace permanente sur ces sites, qui ne sont pas seulement menacés par les djihadistes, mais qui sont aussi menacés par une urbanisation absolument sauvage qui se fait autour de ces villes, qui les asphyxie lentement. Je crois que pour l'instant, la principale menace est là. Lorsque je parle des menaces contre le patrimoine, alors évidemment, la guerre est la première, mais il n'y a pas que la guerre, malheureusement.
Et donc, l'urbanisation, on se rappelle aussi, par exemple, de Gadames, qui est une ville qui avait été désertée sous Kadhafi, puisque Kadhafi avait créé une ville nouvelle, c'est cela ?
C'est ça.
Et où les habitants avaient été obligés de s'installer, et que s'est-il passé
L'histoire est assez merveilleuse, c'est que les habitants n'ont jamais renoncé à vivre dans leur ville. Alors, ils étaient obligés de vivre dans la ville nouvelle, mais en même temps, ils continuaient d'entretenir la ville ancienne avec l'espoir de pouvoir un jour ou l'autre y retourner.
Et aujourd'hui, en fait, cette ville, on peut la visiter, elle est encore en état.
Oui, elle est encore en état, absolument.
Alors, le Yémen, c'est un autre type de menace. Aujourd'hui, évidemment, c'est la menace de l'aviation de l'Arabie Saoudite.
Oui, et de ses alliés, les Émirats Arabes Unis, par exemple, dont il y a eu se passer la conférence de dernièrement
avec
François Hollande pour sauver le patrimoine, vous voyez, les ambiguïtés. Donc, l'aviation syrienne ne fait pas que détruire les sites militaires des rebelles Houthis. Elle va au-delà. Elle détruit le patrimoine. À peu près tous les archéologues sont d'accord. Tous les archéologues sont d'accord sur ce point. Il y a une volonté systématiquement d'anéantir le patrimoine culturel, archéologique, historique du Yémen. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a quand ils attaquent par exemple le barrage ancestral de Ma'arib, eh bien, il ne représente pas d'objectif stratégique. Il y a une volonté simplement de s'attaquer à l'histoire du Yémen, avec ce grand complexe qu'a l'Arabie Saoudite vis-à-vis de l'immense culture du Yémen, que l'Arabie n'a pas, tout simplement parce qu'elle a détruit déjà son propre patrimoine. Alors, c'est le vieux combat entre l'Arabie heureuse et l'Arabie du désert. L'Arabie du désert ne supporte pas la civilisation yéménite, qui est une des plus belles et des plus anciennes du monde, alors que le pays vit dans une misère par ailleurs effroyable. Vous voyez, ce passé, l'Arabie ne le supporte pas, d'où une volonté de l'éradiquer.
Parmi les sites magnifiques qui sont menacés, il y a la ville de Shibam, qui est la Manhattan du désert.
Oui, ça, c'est la Manhattan du désert, des gratte-ciels extraordinaires, avec un écosystème extrêmement particulier. Alors là, ce n'est pas l'aviation qui risque de la menacer, mais simplement le manque d'entretien, le manque d'argent, une ville extrêmement fragile, sublimissime, mais plus de touristes pour amener la manne touristique, plus d'UNESCO, plus d'entretien, donc la ville est en train de péricliter. Alors, elle n'est pas détruite, mais simplement, elle souffre beaucoup.
C'est là où le fonds d'Abu Dhabi pourrait servir à la remettre en état.
Tout à fait.
Merci Jean-Pierre Perrin, journaliste spécialiste Moyen-Orient, ancien grand reporter au quotidien Libération. Je renvoie à votre livre « Menace sur la mémoire de l'humanité » publié aux éditions Webeck.
Merci beaucoup.
Je renvoie également à cette exposition au Grand Palais à Paris, « Sites éternels de Bamiyan à Palmyre, voyage au cœur des sites du patrimoine universel ». C'est à partir du 14 décembre, donc, au Grand Palais à Paris. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Retrouvez aussi l'émission pour la podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr ou à la page Une semaine d'actualité sur Facebook. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
Appelez-nous.